C'est un grand honneur pour nous aujourd'hui à l'ESNESR d'accueillir Michel Janos pour une conférence diffusée en direct sur les territoires, dans les écoles, dans les circonscriptions, dans les établissements. Votre intervention, Monsieur Janos, elle s'inscrit dans le cadre de la formation des personnels d'encadrement de la promotion 2017 qui a été co-conçue avec la DGESCO, avec l'inspection générale, avec les experts de l'Académie de Rouen, que je remercie très sincèrement pour leur contribution. Monsieur Janos, vous êtes professeur de psychoéducation à l'Université de Montréal et votre champ d'expertise, c'est la persévérance scolaire. Vous avez développé des outils qui sont aujourd'hui utilisés au Québec et dans le monde et qui évaluent la qualité de l'environnement en examinant le climat, les pratiques et les problématiques pour permettre aux écoles d'évaluer le potentiel éducatif et de recenser les différents types d'élèves qui ont le risque d'abandonner, de décrocher. Votre intervention a la vocation à poser la problématique du décrochage scolaire à travers les déterminants du décrochage, à travers les processus de désengagement scolaire, les actions de prévention, les résultats de la recherche pour renforcer le repérage et in fine l'accrochage scolaire. Donc je rappelle à tous ceux qui nous écoutent depuis les territoires que vous pouvez poser vos questions à Michel Janos tout au long de la conférence en utilisant le hashtag ESNESRLive qui apparaîtra à votre écran tout au long de cette intervention. Également, vous présentez Nicolas Caruso. Nicolas Caruso qui est dessinateur professionnel qui va tout au long de cette conférence illustrer les propos de Michel Janos d'une manière différente pour nous amener à réfléchir sur ces problématiques de décrochage scolaire. Monsieur Janos, la parole est à vous.
Merci. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. C'est un honneur pour moi de pouvoir participer à votre programme de formation. On a beaucoup de matériel. J'ai pu comprendre que vous aviez des grosses journées de formation, donc vous êtes habitué d'en avoir beaucoup. On en a pour 3 jours, à peu près. Quand j'ai dit ça, on m'a dit qu'il faudrait couper un peu. Donc, j'ai synthétisé en une journée et demie. Puis on m'a dit, non, les stagiaires à l'ESN, ce sont des petits vides. En 1h30, ils vont comprendre. Okay. Donc, mais sans blague, c'est juste pour vous dire, c'est à peu près normal que vous allez retenir à peu près que 10 à 15% de tout ce que je vais vous dire. Mais c'est pour ça qu'on a conçu la journée de façon à pouvoir avoir des moments qui vont nous permettre d'avoir prendre une certaine distance et pouvoir approfondir un peu certaines des idées maîtresses qu'on a essayé de mettre de l'avant dans la présentation. Si je ne suis pas trop ennuyant, je ne serai jamais capable de me rendre à la fin de ma présentation. C'est parce que vous allez vouloir me poser des questions ou parce que je vais sentir que je vais pouvoir approfondir des choses. Si je m'en vais jusqu'à la fin, c'est que j'aurai été un peu plate. On va voir ce que ça va donner. Des fois, j'ai un accent français. Quand je m'oublie, j'ai un accent québécois. Quand je m'oublie, je parle vite. Alors, si je parle vite avec un accent québécois, puis vous commencez à ne pas comprendre, vous me faites signe. Désolé pour les gens sur Internet, puis bienvenue. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Ça fait à peu près 20-25 ans que je travaille sur l'abandon scolaire. S'il y a une problématique qui me fascine, c'est bien celle-là, parce qu'elle est à l'interface du développement de la socialisation. Puis vous allez voir que la façon dont j'aborde les choses, ce n'est pas sur un plan pédagogique, sur un plan didactique, c'est un plan de développement humain. Je vous invite à poser des questions au fur et à mesure que vous en avez, sinon vous allez avoir l'occasion d'avant-midi et cet après-midi d'avoir des échanges. Donc, vous pouvez voir, alors on va commencer, je vous fais le plan, on va faire un tour rapide des déterminants, des facteurs de risque du décrochage. On va parler de prévention universelle, prévention ciblée, les différents niveaux de prévention. On va parler du repérage des élèves à risque. Puis à l'intérieur de cette notion-là, on va parler d'une approche typologique et différentielle. Vous allez voir tout à l'heure, ce sont des mots qui vont devenir évidents pour vous. Puis si on a le temps, je vais vous parler un peu de monitorage, puis d'évaluation d'intervention, d'évaluation de ce qu'on fait. Alors d'abord, la recette magique. Si vous comprenez ça, il n'y aura plus de décrochage dans votre école. Alors, si on veut prévenir et contrer efficacement le décrochage, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord connaître les causes de l'abandon. On est d'accord? pour régler un problème. Quand on parle de prévenir ici, prévenir le décrochage, c'est donc intervenir avant que les jeunes décrochent. Une fois que les jeunes ont décroché, on n'est plus dans de la prévention. On est dans de la rémédiation, on est dans de la réduction des méfaits, mais on n'est plus dans de la prévention. Donc, si je veux prévenir le problème, il faut que je connaisse les causes. Jusqu'à présent, c'est simple. On est d'accord? OK. Maintenant, je dois connaître les causes qui sont modifiables par mon action. Ce n'est pas toutes les causes qui sont sous votre contrôle. Puis on va revenir sur une cause que vous connaissez, la pauvreté. C'est sûr, vous n'êtes pas en mesure d'intervenir sur la pauvreté directement. Donc, les causes modifiables. Ensuite, vous connaissez les interventions qui sont efficaces pour modifier ces causes. C'est simple. Et après ça, il faut être capable d'évaluer sa mise en œuvre, puis d'évaluer les effets. Si vous êtes capable de faire tout ça, vous allez prévenir très efficacement le décrochage scolaire. Le seul problème, c'est que c'est simple, mais c'est difficile à appliquer. C'est parce que si c'était simple, ça fait longtemps qu'on aurait réglé les problèmes. Donc, on va regarder ensemble différents enjeux qui sont reliés à ces différents leviers d'action pour prévenir le décrochage. D'abord, sur certains termes, la notion de prévention universelle et de prévention. Est-ce que ce sont des termes que vous connaissez, prévention universelle, prévention ciblée? Oui, non? Non, OK. Prévention universelle, on parle des interventions qui s'adressent à toute une population, sans sélection des individus. On parle de réduire les facteurs dans la population, les facteurs de risque, diminuer leurs effets. Il n'y a pas de sélection. C'est tout le monde, c'est tous les jeunes dans l'école, c'est tous les gens dans un village, c'est toutes les personnes dans une ville. Quand on parle de prévention ciblée, le terme l'indique, c'est qu'on va cibler des individus. On va cibler des individus qui sont exposés à des facteurs de risque. Parce que ce sont des facteurs de risque sur un plan personnel ou encore contextuel environnemental. Donc, sans vendre le punch, un jeune qui est en échec scolaire, c'est un jeune qui est à risque de décrocher. Pourquoi? Parce qu'être en échec, ça peut prédire le décrochage. C'est un facteur de risque. C'est un facteur qui augmente les risques et les probabilités de décrocher. Un facteur individuel. Des jeunes qui vivent dans la pauvreté, c'est un facteur de risque collectif. Ils sont exposés collectivement. Donc, dans tous les cas, ce que ça veut dire, c'est que si on parle de prévention ciblée, ça va vouloir dire on va vouloir identifier éventuellement des populations ou des individus susceptibles de décrocher et susceptibles de bénéficier de notre intervention. Donc, la prévention ciblée, elle requiert quoi? L'identification des élèves qui risquent de décrocher. Le repérage des élèves à risque de décrocher repose sur quoi? Nos connaissances sur les facteurs de risque. Parce que je ne serais pas capable de les repérer. Vous me suivez? Oui, c'est simple. Super. Maintenant, ces facteurs de risque sont nombreux. Puis on va faire un survol ensemble. Des facteurs socio-géographiques et économiques, vous les connaissez. Bon, la pauvreté. Et bon, évidemment, la pauvreté, ce n'est pas juste un facteur de risque pour le décrochage. Facteur de risque pour, malheureusement, bien des choses dans la vie. Le territoire. Rural et urbain. Je ne sais pas comment ça peut s'exprimer chez vous, mais je vais vous donner un exemple. À un moment donné, on travaillait dans une grosse étude évaluative au Québec. On se rend compte qu'il y a un taux de décrochage élevé dans une région qui s'appelle la Beauce, au Québec, qui était circulée. Hein, je veux dire, c'est 3 heures de voiture de Montréal. Puis, c'est un milieu très actif sur le plan socio-économique. Pas de grande pauvreté, là. Beaucoup de petites et moyennes entreprises, beaucoup d'entrepreneurs. Un bon taux de décrochage. On se met à fouiller, puis qu'est-ce qu'on comprend, c'est... la différence, une des différences entre Québec puis la France, sont les distances. Et on n'a pas votre système ferroviaire. OK? Donc, quand on se promène au Québec, pour ceux qui sont déjà allés, ça peut être longtemps en 2 villages. OK? Si tu n'as pas de train, comment tu fais pour te promener? Tu as besoin d'une bagnole, n'est-ce pas? Maintenant, quand tu es ado, quand tu as 15 ans, 16 ans, 17 ans, l'école, c'est important, mais qu'est-ce qui est encore plus important? Les amis, hein? Quand tu es un gars, qu'est-ce qui est encore plus important? Les filles. Comment tu fais pour avoir une blonde, une copine, en Beauce si tu n'as pas d'auto? C'est un problème. Alors, les garçons, peu motivés à l'école, bonnes habiletés sociales, mais qui ne se projettent pas d'aller chez nous au collégial, d'aller à l'université, ben, dans un système économique où on appelle des jeunes dans des métiers non spécialisés mais bien payés, ben, ils sont mis à être en compétition avec l'école. Puis un paquet particulièrement de garçons qui ont quitté l'école pour aller travailler avant d'être diplômés. Logique socio-géographique. Est-ce que ça pourrait arriver, ça, chez vous? Ça pourrait aussi arriver chez vous. Okay? Donc, dans une logique comme ça, ce que ça nous amenait à faire au Québec, c'est d'intervenir auprès des employeurs puis de leur dire, pourriez-vous ne pas compétitionner l'école, s'il vous plaît? Pourriez-vous ne pas engager des élèves qui vont travailler de nuit et qui ne seront pas capables d'être là le matin, de donner des heures raisonnables, de refuser de donner plus que 10 ou 12 heures de travail par semaine à ces jeunes-là? Puis vous savez, ça a été efficace. Donc, je veux juste vous dire que dans les logiques, dans les causes, il y a aussi des dimensions socio-géographiques qu'on doit prendre en compte. Évidemment, le tissu social, ce qu'on sait très bien, c'est que les familles qui sont isolées, la mobilité sociale. Mobilité sociale, c'est vrai pour les enfants, mais c'est vrai pour les familles. Je ne sais pas si vous vivez le problème ou si les gens sont très, très stables, mais ce qu'on voit, c'est que quand les familles se promènent, ben, la stabilité et la continuité du soutien posent un problème. La mobilité, c'est un problème au niveau de la capacité de rejoindre les élèves, mais la mobilité, c'est aussi un problème quand les personnels bougent. Une des entraves les plus importantes à l'implantation des bons programmes d'intervention, c'est la mobilité du personnel. Parce que les gens qui ont l'expertise ou qui ont de l'expérience bougent. Puis quand on n'a pas trouvé des moyens pour s'assurer qu'il y avait une bonne relève, les interventions et la qualité des interventions descend. Puis évidemment, toute la question de la valeur accordée à l'éducation. Pour certaines cultures, pour certaines communautés, collectivités, ils sont plus grandes. Je me rappelle encore, justement, avec cet enjeu de travail, j'avais un collègue chypriote, puis je lui demande, est-ce que chez vous, ça arrive que le milieu du travail engage des jeunes décrocheurs? Parce que c'est un problème chez nous. Ben, il part à rire, puis il dit, chez nous? Il dit, attends, s'ils ne sont pas bons pour l'école, ils ne sont pas bons pour travailler. Wow! À des années-lumière de la façon dont on voyait les choses au Québec. Juste la valeur fait que la capacité ou la facilité de quitter l'école va varier. Donc, ça peut se retrouver dans différentes localités aussi. Des facteurs institutionnels. Alors, il y a le potentiel éducatif de l'école. Quand je parle de potentiel éducatif, je parle de quoi? Alors, c'est le principe des 5 S. J'en parle beaucoup quand je parle de climat scolaire puis d'intervention sur l'environnement éducatif, mais ça renvoie à 5 grandes fonctions. D'abord, la capacité d'établir un bon climat de sécurité à l'école. C'est bon pour les élèves, c'est bon pour les enseignants. Si on ne se sent pas en sécurité, on n'est pas capable de vivre son métier d'élève, de vivre son métier d'enseignant. Vous me suivez? Pour assurer de la sécurité, il faut être capable de superviser, capable de savoir ce qui se passe. Les adultes qui ne savent pas ce qui se passe ne sont pas capables d'intervenir, ne sont pas capables de sécuriser. Il faut être capable de stimuler. L'apprentissage appelle de la stimulation. Donc, toutes les pratiques qui permettent de stimuler augmentent le potentiel éducatif. Maintenant, stimuler, c'est bon, mais ce n'est pas tous les jeunes qui sont capables d'apprendre au même rythme. Et donc, on a besoin de soutenir aussi. Donc, un environnement qui est soutenant va permettre de maximiser les apprentissages et le sens. Pourquoi je ferais des efforts? Quand les enfants sont tout petits, ce n'est pas un problème. Ils veulent faire plaisir à papa, faire plaisir à maman, faire plaisir à la maîtresse. Puis tranquillement, faire plaisir, ça ne devient pas suffisant. Ou bien parce que l'effort devient trop grand, ou bien parce qu'on n'a pas si envie que ça de faire plaisir. Et donc, on a besoin d'avoir du sens. Qu'est-ce qui arrive quand vous n'avez plus de sens au travail? Tout ce que j'ai entendu, c'est... On se démotive, hein? On s'ennuie. Au travail, ben, c'est la même chose pour les élèves. Bon, le sens, ça ne veut pas nécessairement dire à quoi va me servir Pythagore. C'est pas ça. Mais à quoi, pourquoi je ferais des efforts? Et différents élèves vont avoir différents ancrages pour trouver ce sens-là. Mais ce qui est clair, c'est dans ton environnement, si tu ne te sens pas en sécurité, si tu ne te sens pas supervisé, encadré, soutenu, c'est difficile de générer du sens. Alors, évidemment, tout ce qui est de l'ordre des pratiques éducatives, la gestion des apprentissages, la gestion des comportements en classe, la relation maître-élève. Quand je parle ici de la relation maître-élève, je ne parle pas de l'aspect purement pédagogique. Je parle de l'aspect affectif de la relation. Ben, les études sont assez bonnes pour démontrer, surtout qu'au primaire, que la chaleur dans la relation vient soutenir, entre autres, l'engagement des élèves, leur capacité à faire des efforts. Plus tard, la chaleur est importante, mais ce qu'on s'aperçoit de plus en plus, c'est qu'un des éléments qui pose le plus problème aux élèves, c'est des dynamiques conflictuelles, des sentiments de conflit avec les enseignants. Donc, les enseignants ne peuvent pas sous-estimer l'impact de la qualité de la relation qu'ils ont avec les élèves sur leur propre cheminement, sur leur propre capacité. Et c'est encore plus vrai pour les élèves qui ont des difficultés. Donc, et on va revenir là-dessus un peu cet après-midi dans un exemple d'intervention, la capacité d'entrer en relation est particulièrement importante pour soutenir la trajectoire scolaire et surtout des élèves qui ont des difficultés. Parce qu'on s'entend que les élèves qui vont bien, qui sont forts, qui sont doués, même là encore la douance pose des certains problèmes, okay? Je veux dire, peu importe grosso modo ils vont finir par fonctionner. Les élèves qui ont plus de difficultés ont besoin de s'ancrer, surtout dans l'établissement de relations significatives. Et les enseignants sont des adultes privilégiés dans la vie des individus. Dans la vie des individus. Premièrement, vous êtes tous capables de vous souvenir d'un enseignant qui a fait une différence à un moment donné dans votre vie. C'est parce qu'il s'est passé quelque chose et ce n'était pas au niveau de l'apprentissage des mathématiques. Violence climat scolaire, vous savez ça. Évidemment, le leadership, la gestion. OK, on s'entend sur un truc, c'est que la relation, l'effet entre la qualité du leadership de la direction d'une école et la réussite des élèves, elle n'est pas directe. Ce n'est pas parce que je suis un bon directeur que nécessairement les élèves apprennent plus. Cet effet est indirect. C'est indirect pourquoi? Parce qu'une direction d'école qui se pose comme un leader pédagogique, pas administratif, une direction d'école qui se pose comme un leader pédagogique place au centre de ses décisions, de sa planification, de sa style de gestion, le bien-être de l'élève puis les apprentissages. Et donc, va mettre au centre de ses actions la mise en place des conditions nécessaires pour qu'un enseignant puisse faire son travail. Il va mettre en place les conditions dans son établissement pour avoir du travail collaboratif. Son leadership va être distribué et partagé. C'est par la mise en place des conditions et la distribution des ressources que les bonnes directions d'école sont capables de faire toute la différence en matière de réussite des élèves. Est-ce que ça fait du sens ce que je vous dis? OK. Le lien école, famille, communauté. Les écoles, particulièrement dans les milieux vulnérables, vous appelez ça des zones prioritaires? C'est ça? OK. Donc, attendez. Okay. Les écoles qui ont été capables de mettre en place, de nourrir le lien avec la famille, le lien d'information avec la famille, sentir beaucoup plus, beaucoup mieux que les écoles qui restent isolées de leur collectivité. On parlera de certaines façons un peu plus tard où on peut nourrir cette relation-là, mais se fermer des familles est montré comme étant un facteur de risque. Permettre à nourrir la relation avec la famille est un facteur de protection dans la trajectoire scolaire des élèves. Des fois, je suis lent maintenant quand je parle parce que je fais attention aux mots. Okay, je vous explique. On parle français, vous et moi. Le problème, c'est que même si on utilise les mêmes mots, des fois, on ne veut pas dire la même chose. Okay? Fait que si à un moment donné, vous trouvez ça bizarre ce que je dis, c'est probablement parce que je ne voulais pas dire ce que vous avez compris. OK? Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu le terme collectivité, je donnais une conférence, je le dis souvent, puis là, je parle dans ma tête de communauté, communauté, une approche communautaire. Puis là, je vois les gens dans la salle qui me regardent avec des gros soucis, disent, qu'est-ce qu'ils racontent? Puis à un moment donné, je dis, qu'est-ce qui se passe? Mais on ne voit pas qu'est-ce que la religion vient faire là. Quelle religion? Ben, la communauté. OK, collectivité. Donc, si jamais ça ne fait pas de sens, c'est parce qu'on ne s'est pas bien compris sur les termes. Bon, la famille, ça, vous le savez, tout le monde le sait. Si ça va pas bien chez les jeunes, c'est parce que c'est les parents. Non. Mais en même temps, oui, il y a des facteurs de risque familiaux. Vous les connaissez, la désunion, l'isolement, une scolarité faible des parents, une fratrie nombreuse, des problèmes sociaux, problèmes de santé mentale chez les parents. Pourquoi? Parce que tous ces facteurs-là viennent diminuer la capacité parentale d'accompagner, de soutenir leur enfant. Évidemment, la question des attitudes, la valorisation de la scolarisation, est-ce que les parents valorisent l'école? On connaît le cercle vicieux. Donc, le parent a eu une faible scolarité parce que ça allait mal à l'école. Son rapport à l'école est problématique. Donc, quand il y a des enfants, ben, il y a difficulté d'imaginer comment est-ce que son enfant peut aussi avoir un rapport positif. Je me souviens, quand j'étais psychoéducateur, ce qui ressemble un peu à, je pense, un CPE chez vous. Donc, je travaillais avec des jeunes en difficulté. Puis, je travaille avec ce jeune qui a des problèmes de comportement, mais qui réussit relativement bien à l'école. Puis je vois sa mère, puis qui me dit, mais je ne comprends pas mon fils. Je ne comprends pas. Je sais qu'il y a des difficultés, mais je ne comprends pas. Il aime l'école. Je dis, OK, la mère, elle ne comprend pas que son fils puisse aimer l'école. Bon, on peut comprendre que sa posture, sa capacité elle-même de l'accompagner, son jeune, est problématique parce que ses représentations par rapport à l'école sont problématiques. Donc, pour le reste, les pratiques éducatives, vous imaginez, vous les connaissez. Sur le plan interpersonnel, le rejet par les pairs, l'isolement social des jeunes, à l'adolescence particulièrement, l'association à des pairs déviants non conventionnels est un facteur de risque extrêmement puissant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les mesures qui visent à mettre des jeunes qui ont des difficultés ensemble dans la même classe, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait? On augmente les risques de voir les problèmes s'aggraver. Il n'y a pas de solution simple à ce problème-là. Il n'y a pas de solution simple parce que ce qui justifie cette mesure-là, c'est de dire, attends, le jeune est tellement perturbateur qu'il perturbe le reste de la classe. Donc, pour le bien-être puis pouvoir l'accompagner, je vais le mettre avec d'autres jeunes avec l'idée qu'il va avoir plus de soutien. Le problème, c'est qu'à l'adolescence, ben, les jeunes ils ont besoin d'avoir des amis. Hein? OK. Fait que si les seuls pairs PAIRS avec qui tu les mets sont d'autres jeunes qui ont des problèmes, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de nourrir des relations d'amitié avec d'autres jeunes qui n'aiment pas l'école, d'autres jeunes qui ont des difficultés. Donc, malheureusement, c'est assez bien connu pour être une pratique qui est non efficace. Surtout si elle perdure. Sur les facteurs individuels. OK, oui, le sexe. Les garçons sont plus à risque de décrocher. De toute façon, les garçons sont plus à risque d'à peu près tout dans la vie. Sauf pour les problèmes de type intériorisé. C'est-à-dire anxiété, sentiment dépressif. À partir d'adolescence, vraiment, les filles sont beaucoup plus à risque de développer ce genre de problème. Mais tout ce qui est problème de comportement, ben, les garçons, ben, vous le connaissez. Bon. Mais il reste qu'il y a beaucoup d'études dans les nôtres qui montrent que une fois qu'on mesure le niveau d'engagement dans l'école, le niveau de motivation, l'effort qui est mis, les différences entre les sexes s'atténuent énormément. Donc, ce n'est pas le fait d'être un garçon en soi qui te met à risque, ce n'est pas ta biologie qui te met à risque, c'est le fait que les garçons, en partie, utilisent moins le langage. Dans leur développement, sont moins forts en littératie. Il y a des garçons qui lisent beaucoup. Je parle en moyenne. Hein, c'est en moyenne que je parle, pas des individus. Puis c'est vrai que l'école, quand on y pense, utilise beaucoup le langage comme médium pour l'enseignement. Puis tous ceux qui travaillent, ont travaillé avec les jeunes enfants, vous savez bien que biologiquement, puis en matière de socialisation, les filles se développent plus rapidement sur le plan langagier. Donc, les filles, d'une part, se développent plus rapidement sur le plan langagier. Ensuite, on les socialise davantage à se calmer, à ne pas trop bouger, à lever la main, à apprendre à tolérer la frustration. Les garçons, on accepte un petit peu plus. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu regardes ta moyenne, bien, tu as une proportion de garçons qui ont appris, qui développent leur capacité langagière plus tard, qui n'ont pas été stimulés, autant stimulés dans le développement de la littératie. Puis, à l'école, très rapidement, on te demande, on va t'apprendre à lire. Donc, plus tu es en avance, plus tu vas être capable d'apprendre à lire rapidement. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? On lit pour apprendre. Donc, dans cette dynamique-là, à partir du moment qu'on est à risque dès le départ sur le plan de la littératie, on est à risque au niveau de tout son cheminement de ses apprentissages. Puis ici, les garçons le sont davantage, malheureusement. Donc, écoutez, les déficits d'attention, d'autorégulation, vous imaginez les difficultés, les troubles d'apprentissage, donc tous les déficits, toutes les difficultés individuelles qui augmentent les risques d'échec à l'école, augmentent les risques de décrocher. Pourquoi? Parce que, un, parmi les facteurs qu'on a le plus documentés comme étant les prédicteurs très puissants du décrochage, c'est l'échec scolaire et le redoublement. Donc, tous les facteurs qui sont associés. Et on fait du sens, hein? Je veux dire, si tu es en échec à l'école, c'est un peu comme dire, si tu es en échec au travail, qu'est-ce que tu vis dans ta relation avec ton environnement? Il n'y a rien de stimulant là, hein? Donc, si tu es en échec et en échec répété, on peut comprendre que tu glisses dans un processus de désengagement relativement important. Comportement extériorisé, donc, vous imaginez l'agressivité, blablabla. Les problèmes intériorisés. On a de plus en plus d'études qui montrent que les sentiments dépressifs prédisent l'abandon scolaire. Et ici, les filles sont plus désavantagées à l'adolescence. Puis l'anxiété aussi. Probablement pas en France, là, mais en tout cas au Québec, on a un méchant problème avec l'anxiété chez les jeunes. Vous aussi, hein? Okay. En fait, très honnêtement, plus je me promène, plus je m'aperçois que dans tous les pays occidentaux, on commence à avoir une montée des problèmes intériorisés de santé mentale chez les jeunes qui fait peur. Pour moi, ça devient un problème de santé publique. Puis je ne déconne pas quand je dis ça. L'anxiété. L'anxiété, le problème avec l'anxiété, c'est trop, c'est comme pas assez. Vous connaissez la ligne. Ça nous prend un peu d'anxiété pour augmenter notre niveau de performance. Trop d'anxiété, les enfants gèlent. Devant les examens, devant l'effort qui est demandé dans un truc. Pas assez d'anxiété, puis là, ici, les garçons sont plus nombreux, OK? Ben, ils s'en foutent, puis ils ne font pas les efforts. OK? Donc, la relation n'est pas linéaire, mais plutôt curvilinéaire. Maintenant, l'ensemble de ces facteurs de risque, puis je les ai résumés assez rapidement, l'ensemble des facteurs de risque n'ont pas le même niveau d'influence, un peu comme je disais, certains sont plus importants. Puis on va le voir dans une. Alors, tous ces facteurs de risque, évidemment, qu'on vient de voir, s'inscrivent dans un contexte social, dans une collectivité particulière dans laquelle on valorise plus ou moins l'éducation, plus ou moins l'école comme véhicule de promotion sociale. Puis évidemment, des enjeux politiques et économiques qui sont variables dans le temps. Donc, tous ces facteurs-là vont jouer d'une certaine façon. Mais, la réussite scolaire, c'est d'abord une histoire d'une relation entre un enseignant et ses élèves. Peu importe la façon, peu importe les niveaux d'intervention qu'on va vouloir faire, à moins d'identifier, comme je vous l'ai dit tantôt, un facteur contextuel très précis des industries qui prennent des jeunes qui ont décroché ou qui vont engager des jeunes avant qu'ils finissent l'école. Si on enlève ces situations, c'est d'abord une question de réussite, de sens à l'école. Puis cette réussite et ce sens-là se construit en classe, dans une relation maître-élève. Donc, tous les facteurs qui sont associés à ce système-là sont parmi les puissants pour prédire le décrochage. Il ne faut pas non plus oublier la famille. Plus les enfants sont jeunes, plus évidemment les impacts sont importants, mais il ne faut pas non plus sous-estimer l'importance des parents à l'adolescence. Maintenant, quand je dis adolescence, je voudrais juste qu'on se comprenne bien. Pour vous, l'adolescence, ça se termine quand? Ah! Tricky question. OK. Alors, je fais partie de cette génération de chercheurs. Quand moi, j'ai commencé à étudier l'adolescence, ça allait de 12 à 18. Pourquoi? 12 ans, c'est l'entrée, début de la puberté. 18 ans, l'entrée dans la vie adulte. On est à peu près d'accord avec ça. Qui connaît des filles qui ont commencé à avoir leur menstruation à 11 ans? À 10 ans? 9 ans? OK. On a même documenté des filles qui, à 7 ans, ont commencé à être menstruées dans les milieux défavorisés. Problèmes reliés à l'alimentation, entre autres. Ce qu'on sait, c'est que chez les garçons et chez les filles, le moment de la puberté a reculé d'à peu près 2 ans depuis les 30 dernières années. Donc, on est plus dans l'ordre du 10 ans où on commence ces changements pubertaires-là, en moyenne. Maintenant, quand est-ce qu'on rentre dans la vie adulte? 18 ans? 24-25. Hein? OK? Il y en a un qui me dit 30 ans, tiens. Tanguy, non, ça c'est un Tanguy. Donc, cette période donc, d'adolescence, elle est beaucoup plus longue. Ce qu'on sait aussi maintenant, c'est que le cerveau qu'on continue à se développer, on n'est plus à l'étape de « après 5 ans, le cerveau ne bouge plus ». Non, non, on sait que le cerveau, il y a une période à l'adolescence où le cerveau, en fait, travaille énormément. C'est la période où vous trouvez que les ados sont un peu cons. Parce qu'ils le sont un peu à ce moment-là. C'est tellement... Je veux dire, les changements synaptiques sont tellement nombreux. D'abord, ils ont juste envie de dormir le matin. N'arrivent pas à s'endormir le soir. Puis il y a ces fenêtres-là où ils se sentent absolument seuls au monde. Seuls au monde parce qu'ils ont compris la vie. C'est ce qu'on appelle l'égocentrisme à l'adolescence. Leur pensée formelle fait que, tout d'un coup, ils découvrent le sens à l'amour, la poésie. Et c'est « Papa, toi, tu ne sais pas c'est quoi l'amour. » Non. Hein? C'est-à-dire, « Papa, tu n'as rien compris. » T'as rien compris. Donc, ils sont dans cette phase-là où ils découvrent un paquet de choses, ils ont l'impression d'être les premiers à découvrir, mais, puis on leur donne plus de responsabilités, mais ils sont aussi dans une période très fragile sur le plan du jugement. Ils vont prendre des risques qu'une fois passée cette période de tempête synaptique, va être moins grande. Mais pendant cette période-là, qui peuvent facilement se retrouver autour de 14, 15 ans, 16 ans, ils vont prendre des risques complètement dingues. C'est pour ça qu'ils sont un peu cons. Ils vont prendre des décisions qui ne font pas de sens. Et même quand tu leur mets, mais pourquoi tu as fait ça? Comment ça se fait que tu as fait ça? Ils vont te regarder, je ne sais pas. Puis vraiment, ils ne le savent pas. Donc, il faut voir que malgré ça, malgré toute cette période de développement qui est particulière, les parents sont importants. Puis par rapport à ça, je me permets, le temps passe vite, je me permets de défaire un mythe, la crise de l'adolescence. Elle n'existe pas. Quand il y a vraiment crise chez un adolescent, c'est grave. C'est vraiment grave parce qu'une crise à l'adolescence, ça prédit des problèmes d'adaptation importantes. Pour la très grande majorité, vous savez c'est qui vit la crise? Les parents. Les parents, parce que les parents doivent réajuster leur rapport aux jeunes. Je donne toujours le même exemple. Le matin, un bon Québécois, je me pogne avec mon fils. Tu sais, je l'engueule parce qu'encore une fois, il n'a pas fait ses devoirs. Encore une fois, il se lève trop tard, il risque d'arriver en retard à l'école. Puis là, il s'en va. Puis là, moi, je m'en veux. Je regarde ma femme. Puis j'avais promis que je ne m'énerverais plus avec ces choses-là, qu'il ne fallait plus que je m'énerve, qu'il fallait que je laisse faire, qu'il fallait que je lui fasse vivre ses conséquences naturellement. Je n'ai pas été capable. Je m'en veux toute la journée. J'y pense toute la journée. Lui, quand il rentrait dans l'autobus, okay. C'est ça qui est difficile. On doit, comme parents, réajuster. Et l'idée, c'est qu'on doit... à la fois donner du lest, parce que je veux ma liberté, mais donne-moi-en pas trop vite. Parce que si tu en donnes trop rapidement à des ados, ben ils vont se planter et ils vont se faire mal. Alors, on est toujours pris, nous, comme parents, à devoir trouver, est-ce que j'en donne assez, est-ce que j'en donne pas trop, là, j'en donne trop, je retiens, tu sais, on essaie de faire ce jaugeage-là. Ben, ça reste que cet accompagnement de nos ados vieillissants, ben, il continue à l'adolescence. Et donc, prévenir le décrochage scolaire au collège, au lycée, ça veut aussi dire continuer à penser aux parents. Parce que ce sont des partenaires éducatifs extrêmement importants. Ouais, j'ai fait un long détour pour arriver là. Donc, en fait, l'idée, c'est de vous montrer ce système gigogne. Ah, OK, je pense que vous êtes arrivé. Merci beaucoup. OK. Qui fait que tous les facteurs qu'on a énumérés se retrouvent dans ce système, dans cet écosystème. Ils sont importants. Mais plus on se rapproche de l'élève, plus les facteurs de risque qu'on a identifiés sont puissants pour prédire le décrochage. Quand je dis prédire, c'est augmenter les risques. Ce n'est pas de la certitude, là. C'est on augmente les risques. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'on a des facteurs de risque qui vont de la maternelle à la fin des études. Le décrochage, pour la très grande majorité des élèves, c'est l'aboutissement d'un processus. D'un processus de désengagement qui s'inscrit dans l'échec scolaire. Et ce processus-là peut être plus ou moins long. Dans certains cas, on a des élèves qui commencent à vivre de l'échec scolaire en première année de maternelle. 6-7 ans, 8 ans, ils commencent à vivre de l'échec. C'est long, longtemps quand ça perdure comme ça. Pour d'autres, ce processus des engagements va commencer plutôt au début de l'adolescence, au moment où le collège, où là, tout d'un coup, il y a des difficultés plus nombreuses qui s'inscrivent. Mais l'idée, c'est que les ados, même s'ils sont des fois un peu cons, ils ne se lèvent pas le matin en se disant, « Bon, je pense que ce matin, je vais décrocher. » Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas dire ça juste pour te faire chier. Okay? Mais ils ne passeront pas à l'acte. On va se retrouver dans un contexte où, pour la plupart des jeunes, c'est un processus. Et plus on attend longtemps dans le processus, plus c'est difficile de revenir en arrière. Plus on intervient tôt, et ça c'est vrai pour le décrochage, la consommation de drogue, l'abus de psychotrope, la délinquance, les troubles de comportement intériorisés, plus on commence tôt, plus on augmente l'efficience de nos interventions. Plus on a de chances de changer la trajectoire. Plus on intervient tard dans le processus, plus c'est difficile, plus c'est lourd comme intervention et moins on est équipé habituellement pour être capable de régler le problème. Donc, quand on veut prévenir le décrochage alors que le jeune a déjà un pied à l'extérieur de l'école, il a 16 ans, il a passé l'âge légal, c'est pas mal plus difficile que si on le prend alors qu'il a 12 ans, 13 ans ou 14 ans, qui est encore à l'école, qui vit des difficultés et qu'on a encore l'occasion d'y montrer qu'on peut l'aider à réussir ou à se projeter dans un avenir plus intéressant. Vous me suivez? Pas sûr, hein? Ouais, OK. Le désengagement, c'est un problème d'appariement. Le désengagement, c'est pas juste le problème de l'élève. Ce n'est pas juste le problème de l'individu, ce n'est pas juste le problème du parent, ce n'est pas juste le problème de l'école. C'est le problème de tout ce beau monde-là. C'est un problème d'appariement entre les capacités de l'élève à répondre aux besoins, aux attentes, puis aux défis développementaux, puis aux défis scolaires qu'on lui pose, puis la capacité de l'école à stimuler puis à répondre à ces besoins-là. Ce n'est pas juste la faute de l'un, ce n'est pas juste l'un ou l'autre, c'est une question d'interaction entre ces différents facteurs. Donc, prévenir le décrochage, ça ne peut pas être juste sur travailler juste sur l'élève. Ça veut dire se regarder comme environnement éducatif. Si le problème, c'est juste l'élève, si le problème, c'est juste les parents, jamais vous allez réduire le décrochage scolaire dans votre école. Je vais vous proposer une autre histoire, avec les mêmes choses qu'on s'est dit, mais dans une perspective développementale pour résumer cette trajectoire-là, les grands facteurs qui sont identifiés. Donc, on sait qu'on parle du décrochage scolaire à l'intérieur d'un contexte social. On s'est dit que les environnements éducatifs, il y avait leur potentiel éducatif repose sur la capacité d'assurer de la sécurité, supervision, création de sens, stimulation, soutien. La partie contextuelle environnementale. Maintenant, il y a le potentiel d'adaptation du jeune. Les jeunes n'ont pas toutes les mêmes capacités. Ils n'ont pas tous les mêmes... La vie n'est pas égale. La vie est injuste, profondément injuste. Les jeunes vont arriver dans une famille, vont arriver avec des capacités plus grandes, plus faibles, avec des handicaps, pas d'handicap. Et ça va augmenter, diminuer leur capacité ou pas à répondre aux exigences du développement et aux exigences environnementales. Donc, une fois qu'on a considéré ça, ça va être l'interaction entre les deux. Puis qu'est-ce qu'on veut voir? Comment ils s'intègrent sur le plan scolaire? Les apprentissages, la motivation. Mais comment aussi s'intègrent socialement? Tous les modèles, toutes les théories sur le décrochage insistent sur le fait que l'expérience scolaire, ce n'est pas juste l'expérience pédagogique, c'est l'expérience sociale. Et comme je vous ai dit tantôt, le rejet social, l'isolement social ou primaire est relié à l'échec scolaire. L'isolement, le rejet social à l'adolescence augmente les risques de s'associer à d'autres pairs non conventionnels, qui augmente les risques de sortir de l'école ou d'avoir des comportements déviants. Donc, ce qui est clair, c'est qu'on veut, si on veut prévenir le décrochage scolaire, on veut s'intéresser non seulement à leur expérience d'apprentissage, mais aussi à leur expérience sociale. En fonction de la qualité de cette intégration à l'école, il y a un sens à la scolarisation qui va se construire. Ce sens va ou bien nourrir un engagement, ou bien plutôt un sentiment de désengagement et d'aliénation. Puis plus l'ado va être capable de faire un lien entre ce qu'il vit présentement et où il se projette, donc cette construction de sa pensée formelle, plus il va être capable de se détacher du moment, puis il va se dire, mais est-ce que vraiment l'école, c'est pour moi? Est-ce que vraiment je peux me projeter? Est-ce que c'est un outil qui va me permettre d'être heureux? Et donc, à partir de là, on tombe dans une phase qui est décisionnelle, dans un processus décisionnel. Tranquillement, le jeune, de façon plus ou moins consciente, on s'entend, va commencer à peser les avantages pour et les contre de rester à l'école. Et puis, tranquillement, vont se construire des intentions. Des intentions de vraiment aller plus loin ou des intentions, tranquillement, de se décrocher. Puis, on va se le dire, là, un jeune qui commence à vous dire, « Moi, je pense que je vais décrocher », c'est un premier signal d'alarme. Un jeune qui vous dit, « Moi, je pense que je vais décrocher cette année », c'est trois signaux d'alarme. Parce que ça veut dire que dans ses intentions commencent à s'opérationnaliser, il va commencer à y réfléchir, il va commencer à se projeter là-dedans. Même si c'est du fantasme, même si il a l'impression que tout va se régler s'il quitte l'école, que ce soit faux, que ce soit vrai, c'est ce qui va se construire. Puis ça va venir nourrir son passage à l'acte. Donc, alors les intentions de persévérer ou de décrocher construisent, puis on passe à l'acte. Quelque chose qui est assez important, c'est qu'il y a des études qui ont montré que chez un certain nombre de décrocheurs, l'estime de soi remonte après avoir décroché. Ce qui n'est pas con quand on y pense. Je veux dire, à l'école, je ne vais pas bien, on me renvoie que je ne suis pas bon, on me renvoie que je suis un bon à rien, puis je quitte l'école, il n'y a plus personne qui me le dit. C'est déjà ça de gagner. Hein? Puis, il y a des jeunes qui vont vivre des expériences de vie positives. Tranquillement, se rendre compte que ce n'est pas vrai qu'ils sont bons à rien. Donc, dans certains cas, le décrochage, c'est un mécanisme de survie. Pensez à vous comme travailleur. Si vous êtes dans une situation où vous ne vous sentez pas compétent, on vous dit que vous n'êtes pas compétent. Vous n'avez pas de contrôle sur la situation pour changer les choses. On vous donne des objectifs que vous n'êtes pas capable d'atteindre. Qu'est-ce qui se passe sur un plan psychologique pour vous? Sentiment d'épuisement? Burn-out? Hein? Bon, les jeunes, ils ne peuvent pas faire du burn-out. Ils décrochent. Burn-out, c'est une forme de décrochage. C'est de l'épuisement. Donc, il ne faut pas oublier donc, que le niveau de souffrance que peut vivre un jeune va amener le décrochage comme étant une solution court terme, mais une solution qui est perçue à leur situation. Et puis après ça, bien évidemment, on sait que malheureusement, les jeunes qui ont décroché ont plus grande difficulté de s'insérer sur le marché du travail. Et c'est ce qui fait que pour un certain nombre qui ont plus de capacités, ils quittent l'école, puis là, ils se retrouvent dans des jobs minables. Ils se font, si on a un patron, un boss qui abuse d'eux, blablabla, et tout d'un coup, oh, il y a un sens qui revient pour l'école. Okay? Donc, il y a un certain nombre. Alors, dépendamment des systèmes éducatifs, si on a des écoles de la deuxième chance, on a des situations qui nous permettent de revenir dans la scolarisation, des jeunes qui, après, vont venir se scolariser. Mais ça n'arrive pas, malheureusement, si souvent. Puis, évidemment, il y a des facteurs contextuels. Je peux être une fille qui est relativement à risque, elle tombe enceinte. Bien là, ce n'est pas parce qu'il y avait un processus de décrochage qui était vivant, il y a des événements de vie. Les parents qui, un décès de parents, ont besoin de travailler, ce genre de choses-là. Donc, je vais revenir sur la question des facteurs modifiables. On a des facteurs de risque de statut, on a des facteurs de risque qui sont modifiables. Le retard scolaire, une fois qu'il est fait, l'environnement socio-géographique dans lequel il vit, la région, le statut économique des parents, le sexe du jeune, son origine ethnique, la structure familiale, tous des facteurs de risque potentiels, vous ne pouvez pas intervenir là-dessus. Ne perdez pas votre temps. C'est important que vous le sachiez. C'est important que vous devez savoir ce qui se vit dans la vie d'un jeune, dans la vie de vos élèves, mais vous ne pouvez pas intervenir là-dessus. Vous devez vous focusser sur les facteurs de risque qui sont modifiables. Vous en avez une liste. Maintenant, si on veut s'engager dans de la prévention ciblée, je vous ai dit qu'il faut identifier les jeunes qui sont exposés aux facteurs de risque. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure? Pour faire de la prévention ciblée, donc il faut que j'identifie des jeunes qui sont exposés à des facteurs de risque. On les connaît maintenant. La question qu'on s'est posée, c'est pour identifier les jeunes qui sont à risque, est-ce que j'ai besoin de tout considérer les facteurs de risque, ou je pourrais en considérer juste quelques-uns pour être capable de faire un repérage des élèves à risque plus efficace, moins long. Puis, l'autre question qu'on s'est posée, c'est est-ce que tous les élèves qui décrochent expérimentent les mêmes facteurs de risque, de la même façon? Alors, voici ce qu'on découvre. Puis, quand je dis « on », c'est moi, mais aussi plusieurs autres collègues. La première chose, c'est qu'on est capable d'utiliser, si on a un nombre limité de facteurs de risque, on est capable de faire une identification des élèves à risque assez bonne, qui fait que ces dizaines de variables, le retard du jeune, son engagement, son rendement scolaire, son retard rendement scolaire, son âge, son sexe et ses intentions de décrocher, une fois que j'ai ces informations-là, c'est suffisant, je n'ai pas besoin d'avoir tout le reste. Maintenant, je vais avoir besoin de tout le reste si je veux intervenir avec les jeunes. On va revenir là-dessus. Ce qu'on sait, c'est qu'on est capable donc de faire du repérage assez efficace avec un nombre limité de connaissances sur les facteurs de risque auxquels sont exposés les élèves. L'autre résultat important, c'est que, vous imaginez bien, vous le savez, les jeunes ne partagent pas nécessairement tous les mêmes facteurs de risque. Et c'est là qu'on va rentrer dans l'aspect puis de la partie typologique de l'histoire. Voici une présentation d'une typologie qu'on a validée sur laquelle on travaille depuis 20 ans. Bon, la première chose que je veux que vous sachiez, c'est je vous présente une typologie, ce n'est pas la vérité. Il existe d'autres typologies. L'important du message que je vous donne ici, c'est les jeunes qui décrochent, ce n'est pas une population homogène sur le plan scolaire et psychosocial. Ça, c'est le fond du message. Maintenant, je vous présente la typologie. Alors, on a 4 types de jeunes. Sur 100 décrocheurs, avec différentes techniques statistiques, on a identifié 4 groupes. Le type A, qu'on a appelé discret. Le type B, qu'on a appelé désengagé. Le type C, qu'on a appelé sous-performant. Et le type D, qu'on a appelé inadapté. Maintenant, on va travailler maintenant juste avec les lettres pour éviter de se stigmatiser dans notre tête, mais vous allez comprendre les étiquettes bientôt. Regardons les profils de ces élèves. Je ne peux pas pointer. Bon, OK. Bon, le pointage arrive. Ça fonctionne. OK. Parce que je vous aide à lire le graphique. Ici, ce sont tous les élèves de notre échantillon, on avait 5000 élèves à peu près de tous les niveaux du secondaire. Les diplômés, leur profil sur trois facettes. Leur rendement scolaire, c'est-à-dire les notes. Leur niveau de motivation, puis leur discipline en classe. C'est les trois facettes sur lesquelles on les a mesurées. Vous voyez la ligne du 50? Ça, c'est la moyenne de la population. Donc, la moyenne de la population, c'est un score de 50. Donc, tous ceux qui connaissent un peu en stats, on est dans des scores T. L'écart type est de 10. Donc, en haut de 60, tu es vraiment supérieur à la moyenne. En bas de 40, tu es vraiment sous la moyenne. Ça va? OK. On n'est pas surpris. Le diplômé moyen est un peu supérieur à la moyenne sur ces trois facettes-là. Maintenant, voici nos quatre types de décrocheurs. Le type A, qu'on a appelé discret. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il est un peu plus faible que la moyenne. Mais sur le plan de la motivation, puis sur le plan de l'obéissance en classe, sa capacité de vivre la discipline imposée, il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas. Attends, il est supérieur au diplômé moyen. Type B. En termes de rendement scolaire, il est dans la moyenne. Mais en termes d'engagement et de motivation, c'est au plancher. C'est faible. Malgré ça, pas de problème de comportement en classe. Donc, ce jeune-là, il ne veut rien savoir de l'école, mais il arrive quand même à avoir des notes moyennes. Tu sais, c'est le jeune qui arrive, il n'écoute pas, il arrive en retard, il fait l'école buissonnière, mais il y a un test, il y a un examen, il prend la feuille de son copain, il regarde ça 10 minutes avant le test, hein, puis il s'en tire. Okay? Les deux autres catégories, vous les connaissez davantage, n'est-ce pas? Très démotivé, très rendement scolaire problématique, très faible noble, en échec, très démotivé, on s'attend à ce que tu es très faible, tu ne sois pas très motivé, mais pas de problème de comportement. Puis la quatrième catégorie, bien ça, vous les connaissez. Hein? Ils ont des problèmes partout. Maintenant, voici où est-ce que ça s'est compliqué. Sur 100 décrocheurs, combien vous en voyez dans chacune des catégories? Je vous donne 5 secondes. Quel pourcentage vous mettez dans chacun des types? Essayez d'arriver à 100% quand vous additionnez. Voici ce qu'on a obtenu. On avait à peu près 10% qui étaient de type B. On avait à peu près 10% qui étaient de type C. Ça, ce sont des jeunes qui ont vraiment décroché. Si on fait l'enquête avant qu'ils décrochent, les pourcentages varient. Ça dépend de votre milieu. Mais sur les jeunes qui ont décroché, type D, il y en a beaucoup. Et 40% de type A. Qu'est-ce que ça a comme implication pour vous? Si je vous dis que sur 10 décrocheurs, tu vas en avoir à peu près 4 ou 5 qui vont avoir des problèmes sur toutes les facettes, puis tu vas en avoir 4 ou 5 qui vont être faibles, mais qui n'auront pas de problème, vont avoir une bonne compétence sociale, puis vont être motivés. Spontanément, qu'est-ce que ça a comme implication si vous pensez à ça comme pour l'intervention? Pour la prévention. On recommence. Un, on ne les voit pas, donc l'étiquette du discret. Hein? Il est discret. On ne les voit pas. Et si on ne les voit pas, on ne les cible pas, on n'intervient pas auprès d'eux. Donc, ils passent à travers les filets. L'autre implication, c'est quoi? Est-ce qu'on s'entend sur le fait que ces deux groupes d'élèves n'ont pas besoin de la même chose en termes d'intervention? Ils n'ont pas les mêmes besoins? On ne les fout pas dans la même classe? On ne leur propose pas un programme unique? Donc, l'idée d'intervention indifférentielle, c'est d'apparier ce qu'on offre comme réponse éducative aux besoins principaux des élèves. Il faut comprendre que leurs besoins sont variables. Il faut éviter d'offrir un soutien qui est inadéquat puis d'exposer tous les élèves à une même intervention. Cette intervention-là, elle, offre que la même chose à tous les élèves qui sont ciblés. De façon générale, puis si on avait du temps, on travaillerait juste en atelier là-dessus, puis je vous amènerai à réfléchir, mais malheureusement, on essaie de compresser tout ça. Fait qu'en termes de ligne directrice, ben, les élèves discrets, les types A, qui sont motivés, qui n'ont pas de problème de comportement puis relationnel, mais ils sont faibles. On a besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont faibles, puis on veut se centrer sur leur capacité d'apprentissage. On veut travailler puis augmenter leur réussite scolaire. C'est probablement le type d'élève pour lequel on a un pronostic plus positif. Les types B, c'est clair qu'il n'y a pas de problème d'apprentissage, le jeune. Mais il y a un problème de sens puis de motivation. Donc, si on est dans des interventions qui visent fondamentalement à augmenter la motivation puis le sens à l'effort chez ce jeune. Dans le cas des types C, on disait l'avenir avant tout, c'est parce que, surtout si on l'identifie tard dans le processus, là, le jeune, il a du retard scolaire, il est très démotivé, les risques de décrochage sont très élevés. Il faut commencer à réfléchir, merci Chantal, il faut commencer à réfléchir sur, mais qu'est-ce qu'on peut prévenir pour l'avenir? Il faut commencer à trouver, à avoir une stratégie qui permettrait une meilleure insertion socio-professionnelle compte tenu des habiletés. C'est une population dans laquelle on peut retrouver beaucoup de troubles d'apprentissage ou des déficits importants. Le type D, ben là, c'est tout avant tout. Ici, souvent, on peut penser que, particulièrement cette catégorie, que le décrochage, c'est juste le symptôme de difficultés d'adaptation beaucoup plus grand. Okay? C'est symptomatique d'un problème d'adaptation plus important. Le type D, c'est celui avec lequel, à l'école, on a malheureusement le moins d'effet si on les prend tard. Plus on les prend tard, ces jeunes-là, moins on a de chances de réussir. C'est plate à dire, mais c'est comme ça. Okay? On voit bien qu'avec nos interventions, surtout en milieu scolaire, avec les ressources que les gens ont, quand les jeunes ont des difficultés dans toutes les sphères d'adaptation de sa vie, ça prend de très grands moyens et de très grandes expertises pour être capable de redresser. Évidemment, si vous le prenez à 12 ans, 13 ans, votre marge de manœuvre est beaucoup plus grande que si on le prend à 16 ans ou à 17 ans. Ça fait sens pour vous? OK. Je vais vous parler. Maintenant, je vous ai dit qu'on était capable d'identifier des prédicteurs, puis un nombre limité de prédicteurs nous permettent de faire un repérage qui est valide. Fait que je vais vous présenter un outil qui s'appelle la TEDP. C'est pas tant que ce soit cet outil-là, parce qu'il en existe d'autres, mais l'idée, c'est si on veut faire de la prévention ciblée, il faut se donner des outils pour s'objectiver dans le choix des élèves qu'on va prendre pour l'intervention. Le regard des enseignants, il est important, puis il va être très utile. Mais vous avez eu le réflexe tout à l'heure rapidement. Si on pense juste avec le regard de l'enseignant ou des intervenants au quotidien, il y a une série de types d'élèves à risque qui ne vont pas se faire cibler. C'est naturel que les intervenants vont d'abord voir les élèves qui dérangent, les élèves qui sont difficiles. Mais ce n'est pas les seuls élèves qui abandonnent l'école. Donc, je vais vous présenter rapidement un outil, puis vous aurez l'occasion de reparler de toute la question du repérage en atelier tout à l'heure. Donc, c'est un outil qu'on a développé au Québec, puis on a validé auprès de plusieurs milliers d'enfants, puis avec l'Académie de Rouen, puis je salue mes collègues enseignants en direction d'école, et Chantal Blanchard, qui est, je ne sais plus ton titre, DAFE? Des feuilles IEPR, et vous parlez avec des onomatopées, vous, c'est vraiment... Donc, salut, donc, qui ont travaillé, qui ont aidé à valider une partie de l'outil qu'on va vous présenter. Donc, c'est un questionnaire qui arrive, c'est un questionnaire web, il y a 111 questions. Maintenant, je vous ai dit, avec un petit nombre de questions, on est capable d'identifier. 111 questions, c'est pas petit. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un outil qui nous permet d'avoir une version courte. Version courte qui va se passer en une dizaine de minutes, dans lesquelles on va leur poser seulement une quinzaine de questions. Une quinzaine de questions qui vont nous permettre d'identifier un niveau de risque, puis d'identifier dans quelle typologie de jeune à risque il se situe. Mais de savoir que le jeune est à risque, c'est un premier pas. Mais pour intervenir, ce n'est pas suffisant. Pour intervenir, j'ai besoin de connaître un peu plus où sont ses besoins, quelles sont ses forces, quelles sont ses vulnérabilités. Et c'est ici où notre connaissance de l'exposition aux autres facteurs de risque est importante. Qu'est-ce qui se passe dans la famille? Qu'est-ce qui se passe dans les relations entre pairs? Qu'est-ce qui se passe dans la relation avec l'enseignant? Quelles sont les difficultés psychosociales que vit le jeune? Le jeune, est-ce qu'il y a un problème de surconsommation d'alcool? Le jeune, est-ce qu'il est dépressif? Mon indice de risque, il ne me le dit pas. Fait que si j'ai un outil qui me permet à la fois de me donner un niveau de repérage, puis à la fois certaines informations sur les forces et les faiblesses du jeune, j'augmente ma capacité de bien identifier, de mieux connaître les besoins du jeune pour pouvoir intervenir. Puis là, je le dis maintenant, je vais leur dire souvent, ça ne donne rien de faire du repérage d'élèves à risque si on ne fait rien avec ça. Si vous n'avez pas planifié d'intervention, si vous ne vous sentez pas équipé pour intervenir, on ne fait pas de repérage. C'est immoral, non éthique. On s'entend là-dessus? OK. Donc, développer sa capacité pour faire de la prévention. Ça veut donc dire, pour faire de la prévention ciblée, je dois m'outiller pour faire de l'identification d'élèves à risque, mais du même coup, ce que ça veut dire, c'est que je dois développer ma capacité, connaissance, savoir-faire, d'intervenir auprès de ces élèves-là. Sinon, le repérage ne fait aucun sens. À quel âge est-ce qu'on devrait commencer à repérer les élèves à risque? Alors, le principe est le suivant. J'ai dit que plus on intervient tôt, plus on augmente notre efficacité. C'est vrai. Le problème est le suivant. C'est qu'on n'est pas dans un système déterministe ici. Même si l'élève est à risque, il est à risque parce qu'il est exposé à des facteurs de risque. Il n'y a aucune certitude qu'il va décrocher. Puis plus on s'éloigne dans le temps du moment où l'élève va décrocher, plus il y a des probabilités qu'il peut y avoir des facteurs qui vont intervenir puis changer sa trajectoire. Alors, je peux me retrouver, et ce que ça veut dire, c'est que je peux identifier un jeune à 8 ans, 9 ans qui a des échecs scolaires, mais il y a encore pas mal de temps pour qu'il se passe quelque chose avant qu'il décroche. Donc, oui, on peut identifier des élèves qui sont à risque à 8 ou à 9 ans, mais notre valeur prédictive, la puissance de prédiction n'est pas très bonne. Plus on se rapproche du moment où les jeunes décrochent en général, plus nos indicateurs de repérage sont bons. Donc, si on commence à faire du repérage dépistage à l'âge de 11-12 ans, on a une certaine efficacité. Si on les utilise alors qu'ils ont 14, 15 puis 16 ans, l'efficacité du repérage augmente. Fait que c'est à la fois, mais tu sais, c'est la question des faux positifs, faux négatifs, ça vous dit quelque chose? Un faux positif ou un faux négatif? Si vous allez passer un test cancer sanguin, un faux positif, c'est on vous dit que vous allez décrocher, mais vous n'allez pas décrocher. On vous dit que vous avez le cancer, vous n'avez pas le cancer. On dit faux positif. Un faux négatif, c'est on vous dit vous n'avez pas de problème, mais vous avez le cancer. Okay? Donc, les bons tests de dépistage en santé, c'est ceux qui ont beaucoup de vrais positifs, puis pas beaucoup de faux négatifs. Plus on se rapproche du moment où les jeunes décrochent, plus tous les tests qu'on connaît sont davantage sensibles. Ce qui veut donc dire que notre capacité de repérage est influencée par le moment où on le fait, puis on doit être conscient qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Quelques éléments de considération éthiques. Si on veut faire de la prévention ciblée, il faut les identifier. Si on les identifie, on peut y aller au pif. Si on y va au pif, on sait qu'on va être bon certaines fois, mais on va être mauvais d'autres fois. Donc, on essaie d'accompagner notre jugement de certains outils. Quand on utilise des outils, il y a des éléments éthiques à considérer. D'abord, la question du consentement. Les gens doivent savoir, puis surtout les parents doivent savoir qu'est-ce qu'on fait. Puis, il faut connaître les problèmes d'étiquetage qui sont réels. Ah, votre fils, madame, c'est un sous-performant. Non. Non. Toi, tu es un inadapté. Non. OK? Pour ceux comptables, type A, type B, type C, on peut en discuter, puis personne ne sait trop ce que ça veut dire. OK? On le sait qu'à partir du moment où on identifie des jeunes qui sont ciblés parce qu'ils sont à risque, il y a un risque d'étiquetage. Et ce risque d'étiquetage affecte la représentation que l'élève peut avoir de lui-même, mais affecte aussi la représentation que les adultes peuvent avoir du jeune. Donc, on veut éviter cet effet Pygmalion. Vous le connaissez, cet effet-là? Vous connaissez bien? Donc, il existe. On veut réduire les probabilités que ça arrive. On prend les moyens pour le faire. On ne fait pas de repérage puis d'identification quand on ne sait pas ce qu'on fait. On doit être formé pour le faire. On doit savoir qu'est-ce qu'on fait. L'autre chose, c'est qu'on peut avoir n'importe quel outil, n'importe quel questionnaire, qu'il y a 100 questions, qu'il y en a 80, qu'il y en a 250. Peu importe. Une fois qu'on a l'évaluation un peu sur papier, on doit nécessairement, après, faire une bonne analyse de cas, de voir ce qui se passe dans les dossiers, d'aller voir les enseignants, de pouvoir rencontrer les parents pour faire une bonne analyse des besoins de l'élève. C'est important de traiter les résultats avec confidentialité. Nous, on établit tout un système anonyme puis de code qui fait qu'il n'y a jamais un nom qui apparaît. Donc, c'est important d'éviter pour pas qu'un collègue, par hasard, voit tenir sur un bureau, pour dire « Ah, tiens, type D, inadapté, machin chouette », puis on voit le nom. Donc, on fait attention à toutes ces choses-là. Donc, on travaille avec des codes. Je réitère, si je fais du repérage, d'identification générale, j'ai une obligation morale d'intervenir. Ça peut arriver, par exemple, qu'on ait identifié plusieurs jeunes et qu'on n'est pas capable d'intervenir avec tout le monde. Ça arrive. Ça, c'est correct. Ce qui n'est pas correct, c'est de dire, OK, on va faire du repérage. J'ai 400 élèves. J'ai une capacité d'intervenir seulement avec 4 élèves dans l'école, compte tenu de la ressource que j'ai. Mais on va passer le repérage partout. Puis tu sais que tu risques d'avoir à peu près une cinquantaine d'élèves qui va sortir. Mais là, j'identifie 50 élèves, j'ai une capacité d'intervenir avec 4. C'est pas éthique de faire ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une réflexion qui doit venir avant. C'est quoi mes ressources pour intervenir? Auprès de qui je vais intervenir en priorité, de façon à pouvoir cibler mon activité de repérage? C'est quoi mon mandat? Quelles sont mes ressources? À qui s'adresse mon intervention? Qui je vise en priorité? Les jeunes qui sont plus loin du processus, qui sont à risque, les jeunes qui risquent de décrocher dans la prochaine année, que j'identifie la population auprès de qui je vais intervenir en priorité, va m'aider à faire des choix dans mes activités de repérage. Là, j'ai plus de temps. J'ai vraiment plus de temps. Fait que mes collègues... Vous allez peut-être pouvoir regarder des choses en atelier tout à l'heure. Je vous donne un exemple de ce qui ressort dans l'outil de repérage qu'on leur donne. Donc, la première chose qu'ils vont avoir d'information, c'est de base, c'est ici secondaire 1, donc c'est en 6e. Au collège, en 6e, non, c'est en 5e. 13 ans, c'est 5e? 4e. Donc, un élève de 4e, sexe masculin. Son indice de risque est à 71. En haut de 40, on considère qu'il est à risque. Il est 71, il est pas mal à risque. C'est de type A. Il a déjà dépensé, il a déjà pensé à décrocher, puis il veut terminer son cégep, ce qui serait passer son bac. Hein, il veut passer son bac puis aller à l'université. Puis si l'élève, puis on peut repasser le questionnaire d'une année à l'autre, ce qui est capable de voir s'il y a une évolution. Puis après ça, on va regarder le fonctionnement scolaire du jeune, son engagement. Puis ce qu'on a établi, puis c'est ce qu'on a fait. Je ne sais pas si on est capable de voir quelque chose ici. Bon, oui, c'est un peu petit, mais en fait, faites-moi confiance. Croyez-moi quand je vais vous le dire. Okay. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des scores qui sont standardisés. C'est-à-dire que pour chaque échelle qu'on mesure, on a le score pour un garçon de 12 ans puis une fille de 12 ans. Donc, il y a une norme par rapport au sexe et à l'âge de l'élève. Vous avez deux lignes. La ligne 150, c'est la moyenne de la population. En haut de la ligne rouge, c'est un problème. En haut de la ligne verte, c'est une force. En bas de la ligne rouge, c'est un problème. Donc, rapidement, on est capable de voir sur différentes dimensions, rendement scolaire, la motivation, l'engagement, où le jeune se situe par rapport à la norme de son groupe d'âge et de son sexe, sur différentes dimensions. Donc, une fois qu'on identifie les élèves à risque, on est capable, on regarde leur profil scolaire et psychosocial pour voir leurs différentes forces et vulnérabilités. Je vais terminer maintenant avec cette, euh, la dernière partie de ma présentation, sur la question de l'efficacité de l'action. Qu'est-ce qu'on entend par efficacité? Bon, alors, juste pour qu'on puisse suivre ensemble, on va dire que la notion d'efficacité renvoie à la capacité de produire des effets, donc atteindre des objectifs, puis aussi au degré d'atteindre des objectifs. Il y a deux dimensions à considérer. Telle efficacité qui est potentielle, puis telle efficacité qui est réelle. Souvent, quand on pense à l'efficacité d'un moyen, c'est au potentiel d'efficacité. Compte tenu de la recherche, compte tenu de l'expérience, on s'attend à ce que cette intervention, cette mesure-là, ait telle efficacité. Mais après ça, on a l'efficacité réelle. Puis c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait qu'on a souvent un écart entre le potentiel d'efficacité et l'efficacité réelle? C'est la qualité de la mise en œuvre. C'est rare qu'on arrive vraiment à mettre en place l'intervention, le programme, tel qu'on l'a planifié. Il y a souvent un écart entre les deux. Le problème, c'est qu'on ne prend pas souvent le temps de monitorer la qualité de cette implantation-là. Donc, ce qui fait la différence entre le potentiel de l'efficacité et l'efficacité réelle, c'est la qualité de la mise en œuvre de mon intervention. Est-ce que j'ai réussi à mettre en place l'intervention telle qu'elle était planifiée? L'autre élément, c'est est-ce qu'on a pris le temps de planifier la mise en œuvre de l'intervention? Ou j'ai une intervention, parfait, on l'a fait. Comment on l'a fait? On ne suit pas la chose, puis on n'a pas vraiment planifié les conditions pour mettre en œuvre. Ce sont les principaux facteurs qui font qu'on passe d'une intervention qui a un bon potentiel d'efficacité à une intervention qui n'est pas si efficace. Alors, pour augmenter notre potentiel d'efficacité, il y a trois dimensions, puis là, je vais accélérer pour vous donner un peu de temps pour poser des questions. Il faut être capable d'identifier ou développer des actions qui sont efficaces. Vous les trouvez où, vous, les actions efficaces? Vous savez comment les trouver? C'est facile? C'est facile de se former à ces actions efficaces? Hein? Donc, un des premiers problèmes est là. Puis les chercheurs ont été très bons à dire... Hey, vous devez utiliser les données issues de la recherche. Vous devez utiliser des pratiques efficaces. On est très bons comme chercheurs pour vous dire ça. Mais après ça, où vous formez, comment vous formiez, combien ça coûte, combien de temps ça va durer, ça, tout d'un coup, on est silencieux. Okay? Donc, un des problèmes qu'on a encore beaucoup, c'est comment on fait quand on développe des connaissances sur des pratiques efficaces pour les rendre sur le terrain. Puis je vous dirais que c'est le plus grand défi que se pose actuellement dans le monde occidental, et pas seulement en éducation. C'est vrai aussi pour des domaines comme la médecine. Il y a toute notre capacité à mettre en œuvre puis à déployer des actions qui sont efficaces. Implanter une intervention efficace dans votre école, c'est déjà un bon défi, mais ça se fait. Si on recule puis on monte, comment est-ce que je fais pour ce programme, cette action qui est efficace, la déployer dans 50 écoles. C'est plus la même game. C'est plus la même chose. Et ici, je vous dirais que les chercheurs ne sont pas très bons à vous éclairer. Parce qu'on est en plein dans un domaine de recherche très actif, qui s'appelle la science de l'implantation, où on s'est rendu compte qu'il ne suffisait pas de dire aux gens « voici une pratique qui est efficace ». On se rend compte que pour qu'on puisse déployer des programmes qui sont efficaces, on doit identifier les conditions qui permettent de mettre en place des interventions dans différentes organisations, dans différents milieux, ce n'est pas parce qu'elles s'appellent une école que les deux écoles sont pareilles. Donc, il y a actuellement, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a beau vous le dire, les chercheurs pour le moment ne sont pas très, très utiles à vous dire de façon précise comment faire pour le déployer à large échelle. C'est un champ de développement, c'est un champ de développement de connaissances actuellement. Puis je vais terminer avec ça, la question du monitorage. C'est-à-dire que le monitorage, c'est l'action de documenter le déploiement ou la mise en œuvre d'une intervention planifiée et ses résultats, vérifier l'atteinte des objectifs. Je vais résumer la chose ainsi. Pouvez-vous imaginer un enseignant dans sa classe qui accompagne l'apprentissage des élèves, qui ferait aucune évaluation des apprentissages? Non, hein? Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque, c'est-à-dire que l'évaluation permet, moi, de mesurer la progression des apprentissages et permet de donner une rétroaction puis un feedback à l'élève sur ses apprentissages, donc le renforcer, lui dire, attends, il y a des choses qui sont à travailler. Okay? L'évaluation, c'est une pratique pédagogique. Bien, l'évaluation de l'intervention puis de vos actions, c'est une pratique efficace aussi. Quel est le temps et l'énergie que vous mettez à évaluer les interventions que vous déployez? Pas tant que ça, hein? Pourtant, c'est probablement la pratique la plus transversale et la plus importante de n'importe quel type d'intervention que vous pouvez faire. Puis pourquoi on ne le fait pas? Bien, des fois, on n'évalue pas parce que c'est des enjeux stratégiques, parce qu'on a peur des conclusions négatives. Ça pourrait conduire à des réductions de ressources. Pouvoir, par insécurité, par anxiété, ça peut être ça. Bien, plus souvent, par manque de temps. Ce n'est pas de la mauvaise volonté pour le 1. Puis c'est par manque d'expertise ou de ressources. Puis le message que je vous envoie est le suivant. Peu importe les interventions que vous allez mettre en place, vous pouvez avoir le super programme. Super programme. Ce n'est pas une pilule. Pilule, tu apprends, tu avales, c'est fini, c'est réglé. Le programme d'intervention, ça a besoin d'être monitoré. On sait qu'on a toujours de la difficulté à réaliser dans l'action ce qu'on a planifié. Puis si on ne se donne pas des outils pour monitorer notre action, on n'est pas capable de porter les ajustements nécessaires. Quand on finit par faire le résultat, « Oh mon Dieu, ça n'a pas donné tout l'effet, les résultats qu'on voulait. Pourquoi? Ben, je ne sais pas. » Fait que c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, c'est une perte de ressources. Alors, le seul message que je voudrais que vous entendiez ici, l'évaluation de vos interventions, votre auto-monitorage, ce n'est pas une perte de temps. C'est une garantie que vous allez pouvoir mettre en place quelque chose qui va être plus efficace puis augmenter l'efficacité dans le temps. Puis je sais, c'est pas facile, c'est chiant. On se sent pas outillé, on a besoin d'être accompagné, mais c'est probablement la pratique la plus efficace que vous pourriez demain matin mettre en place puis faire augmenter l'efficacité de vos actions pour vos mesures préventives. Merci beaucoup.